Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce magazine d'actualité du week-end. Au programme aujourd'hui, la traditionnelle et incontournable rubrique littéraire de Václav Richter sera consacrée aujourd'hui à l'ouvrage que l'historien de la littérature Adlo Pitlick a écrit à propos de Jaroslav Hašek, le génial inventeur du bon soldat Švejk, dont nous fêtions récemment les 130 ans de la naissance. Avant cela, de la culture, l'écrivain Claire Legendre, ancienne expatriée à Prague, a tiré de cette expérience un roman et en parle au micro de Marion Dautry. Bonne écoute à tous et à toutes. En 2011, l'ambassade de France en République tchèque estimait à 3 800 le nombre de Français installés en République tchèque. Pendant 3 ans, l'écrivain Claire Legendre a fait partie de ce monde d'expatriés et en a tiré un roman, Vérité et amour, le slogan de Václav Havel. Marion Dautry l'a interrogé sur son livre et sa vie à Prague dans un entretien téléphonique.
Culture sans frontières.
Claire Legendre, vous êtes l'auteur du roman Vérité et amour qui raconte l'histoire de Francesca, une prof d'histoire géo de Nice, qui abandonne tout pour suivre son mari à qui on a offert un poste à l'ambassade de France à Prague. Et finalement, je ne veux pas trop en dire sur l'histoire, mais pour elle, l'aventure de l'expatriation s'avère... En fait, loin d'être idyllique, Claire Legendre, Francesca, c'est vous ?
Ah non, 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 Francesca, c'est pas moi. D'abord, moi, je suis venue à Prague en ayant envie d'y aller, en connaissant pas mal l'Europe centrale et en venant pas par hasard. Francesca, elle s'appelle Francesca parce qu'elle est française. Hein. Et pour moi, c'était un petit peu un cliché d'expatrié. J'ai rencontré beaucoup d'expatriés pendant les 3 ans que je passais à Prague. Donc évidemment, il y a de moi dans Francesca, c'est évident. Je veux dire, j'aurais pas écrit le livre sans ça, mais c'est pas du tout un livre autobiographique.
Et justement, la figure de cet expatrié un peu presque caricatural, ça permet dans votre livre de fournir une sorte d'analyse de la société tchèque qui entre en contradiction avec la position de la narratrice, justement. Par exemple, je pense au poids de l'histoire et à ce que vous racontez sur la culpabilité que ressent Francesca d'être de gauche ou d'être une Française qui a trahi la Tchécoslovaquie avec les accords de Munich. Est-ce que cette culpabilité, vous l'avez ressentie vous-même ?
Culpabilité, c'est un grand mot parce que, bah, pour le coup, j'ai ça en commun avec mon héroïne, c'est que je suis née en 1979, donc les accords de Munich, j'y suis pour rien. Mais c'est vrai que je crois que c'est assez commun à beaucoup d'expatriés de gauche à Prague. On a l'impression d'être confronté aux limites de nos convictions. Hein. C'est-à-dire que enfin, quand j'essayais d'expliquer à mes amis tchèques que Marx n'avait tué personne, ils me répondaient « Oui, mais moi, mon père était le goulag. » Donc forcément, je ferme ma gueule. Hein. Dans ce cas-là, je veux dire, il y a quelque chose, une puissance du vécu qui vous fait taire et qui l'emporte sur quelles que soient vos convictions au départ. Vous en touchez la limite par le vécu de l'autre, quoi. Et ça, pour moi, c'est une découverte très puissante. J'ai vraiment l'impression d'avoir appris quelque chose à travers les personnes que j'ai rencontrées après.
Et vous parlez d'une limite dans les rapports. Est-ce qu'à un moment, on arrive à dépasser cette limite et à avoir une conversation où on arrive à se comprendre
Oui, j'ai des amis tchèques et des amis très chers d'ailleurs, tchèques et slovaques. Oui, non, je pense que justement cette relation, elle met beaucoup de temps à se construire parce qu'il faut passer par-dessus l'étrangeté, mais par-dessus bah, les différences de codes sociaux, par-dessus les différences historiques aussi. Mais bien sûr que oui.
Un autre aspect du livre qui est intéressant, c'est toujours par rapport à la position de Francesca, de la narratrice, c'est son rapport à la France, puisque en quelque sorte, en filigrane, comme un écho, on suit l'évolution de la politique française. Elle s'en va quand Nicolas Sarkozy est élu. Et quand elle est au Canada, elle vit aussi l'élection de François Hollande. Comment on se sent par rapport à son pays quand on est si loin ? Comment on vit, par exemple, la politique et l'évolution de son pays ?
pour moi, c'était vraiment une partie du livre, du sujet du livre. C'était je suis devenue française en m'expatriant. C'est-à-dire que jusqu'à... Moi, j'ai déménagé après en 2008. Hein, mon héroïne est par elle en 2007, vraiment au lendemain de l'élection de Sarkozy. Moi, j'ai mis un an de plus, mais c'est vrai que j'ai vraiment le sentiment d'être devenue française en 2008. Parce que tant que vous vivez en France, vous ne vous posez jamais la question de votre identité nationale. Les gens que je rencontrais à Prague et encore à Montréal aujourd'hui, pour eux, je suis avant tout française. Il faut assumer ça. C'est-à-dire de porter une espèce d'image de la France, de cliché parfois de la France. Et c'est sûr que pendant le quinquennat de Sarkozy, pour moi, c'était très difficile d'être associée à cette image-là de la France. Parce que je suis de gauche philosophiquement au départ depuis longtemps, et puis par histoire familiale aussi. Et de me retrouver... apporter cette image-là de la France, c'était désagréable. Cela dit, on finit par aimer même les clichés parce qu'on ne peut pas y échapper. On finit par s'associer soi-même aux clichés de la France parce que les autres vous renvoient ça. Même si on n'y correspond pas tout à fait au départ, quoi. Et puis c'est vrai que les expatriés français à Prague, ils sont toujours en train d'essayer de chercher une entrecôte, comme si finalement, même dans les choses les plus triviales, on essayait toujours de se raccrocher à des repères, à des Madeleine de Proust, à des, alors que bon, à Prague, on n'est pas non plus si dépaysé que ça.
Et donc vous parliez justement très à propos des entrecôtes. Votre livre est plein d'anecdotes sur la vie à Prague. Sur, par exemple, au début, vous parlez de l'impossibilité de trouver des tampons avec applicateur. Vous parlez des pâtes. Vous parlez de ce genre de choses. Qu'est-ce qui manque le plus quand on est une Française à Prague ?
Ah, mais je crois que ça a complètement changé. Aujourd'hui, on trouve des côtelettes d'agneau dans les supermarchés sans problème. Ça change très très vite, Prague. C'est même vertigineux à quel point ça évolue vite. Donc je suis sûre que la prochaine fois que je vais revenir, il y aura des choses nouvelles encore. Ce qui me manque à Prague, quand on est français, c'est pas des produits de consommation. C'est des repères personnels, en fait. C'est ce qui est de l'ordre de la langue, de la culture. Moi, je viens du sud de la France. Ce qui m'a, je crois, le plus manqué dans les 6 premiers mois de ma vie là-bas, c'était la chaleur humaine. Parce que les gens ne se parlent pas dans le tramway, par exemple. On finit par aimer ça. Moi, j'ai fini par aimer tous ces comportements différents des Tchèques par rapport à nous. J'ai fini par vraiment apprécier ça et par avoir l'impression de comprendre pourquoi c'était comme ça. Mais pour ça, il faut connaître les gens, faut être immergé dedans, quoi. Quand on arrive, c'est toujours très
très
étranger. Ouais, ouais.
Et quel regard vous avez sur, disons, le monde des expatriés français ? Vous êtes venu de votre propre volonté et par envie, par intérêt. C'est pas le cas de tout le monde, c'est pas le cas de tous les Français que vous avez rencontrés.
Mais je dirais surtout que c'est pas le cas de toutes les Françaises que j'ai rencontrées, parce que par contre des femmes d'expats qui suivent leur mari et qui travaillent pas et qui font beaucoup d'enfants et qui s'ennuient ou pas d'ailleurs, mais j'en ai beaucoup connu et j'en connais encore pas mal, que ce soit à Prague ou ailleurs. Et c'est vrai que cette vie-là, elle est assez ingrate, parce que c'est Madame Bovary, quoi. Voilà, je trouvais que c'était un groupe social très particulier. En même temps, j'ai beaucoup d'amis qui sont expatriés, et donc je les vois pas en tant que groupe social, je les vois en tant que personne. Après, il y a les raisons pour lesquelles on s'expatrie. Il y a des expatriés économiques qui le vivent plus ou moins bien. Moi, je suis pas une expatriée lambda, quoi, parce que j'écris, parce qu'on peut toujours s'occuper quand on écrit, parce que là maintenant, je suis expatriée en étant prof à l'Université de Montréal. Mais je trouve que c'est un milieu passionnant parce qu'il est petit, c'est un microcosme, et du coup, c'est comme un théâtre, chacun tient un peu son rôle, quoi. Voilà, moi c'est un peu aussi ça qui m'a donné envie d'écrire sur cette société-là. les sociétés consulaires, l'ambassade, etc. Voilà, tout ça, c'est quelque chose d'assez romanesque, en fait.
Dans le livre aussi, on voit une transformation assez rapide, peut-être sûrement très caricatural, mais dans la relation de Francesca avec son mari, justement, et une transformation dans ce qu'on voit de ce mari par rapport à ce qu'on en sait au début du livre. Est-ce que l'expatriation, le fait d'être loin, le fait d'être confronté à l'étranger, comme vous disiez, ça peut transformer les gens à ce point?
Je pense que ça transforme de toute façon tout le monde. C'est comme si... on vous change de bassin, hein. On vous plonge dans l'eau et puis on voit ce que vous devenez, quoi. Oui, ça transforme tout le monde. Alors, est-ce que la transformation du personnage du vice-consul dans mon roman, est-ce qu'elle est caricaturale? J'en sais rien, je pense pas. Je pense que c'est aussi une transformation qui est subie par lui. Je veux dire, c'est un personnage qui se retrouve aussi, lui, obligé de faire plein de choses qu'il n'avait pas prévu de faire. Donc, non, je crois vraiment que le changement de décor, ça influe terriblement sur nos vies.
Et pourtant, après Prague, Francesca et donc vous-même, vous êtes repartis, et vous êtes repartis même encore plus loin, puisque vous êtes partis au Canada, à Montréal. Alors, l'expatriation, on y prend goût?
Alors, ce que je dis au début du livre, c'est qu'une fois qu'on est parti, on peut plus rentrer. Il n'y a pas de retour possible. Rentrer, c'est morbide. Voilà. Donc, peut-être que je rentrerai en France ou à Nice. En l'occurrence, moi, je suis de la Côte d'Azur. Donc, si je retourne un jour sur la Côte d'Azur, ce sera, je sais pas, à ma retraite, comme tout le monde, en fait. Mais il y a quelque chose de profondément morbide dans le fait de rentrer. Voilà. Et je suis pas prête à ça, en tout cas. Peut-être... ailleurs en France, mais disons que pour l'instant, je suis bien à Montréal et j'ai aucune raison d'en partir. Donc, ce qui est vrai, c'est qu'une fois qu'on a bougé plusieurs fois, moi j'ai tendance à plus faire de pronostics sur la suite des événements parce que rien ne me laissait penser que dans ma vie j'irais passer 3 ans à Prague et rien ne me laissait penser que j'irais vivre à Montréal après. On finit par regarder ça avec un petit peu de détachement, quoi.
D'accord.
De fatalisme aussi.
On a presque l'impression qu'une fois qu'on s'est senti français à l'étranger, on a du mal à se sentir à nouveau français en France, bien en France.
Oui, mais j'ai des amis à qui c'est arrivé, qui sont rentrés en France et qui ont mis beaucoup de temps à se réadapter. Et c'est vrai que l'étrangeté, c'est l'écart entre ce qu'on connaît et ce qu'on découvre. Et je pense que d'éprouver cette étrangeté au retour en France, ça doit être terrible. Parce que là, quand je rentre en France pour les vacances, j'ai l'impression que je connais la France, que c'est chez moi, que c'est facile. Je pense que si je retournais y vivre, là, ça fait presque 5 ans que je suis ailleurs, j'aurais à subir aussi cette adaptation. Et là, ce serait assez violent, je pense.
Culture sans frontières.
On passe à la rubrique littéraire de Václav Richter qui parle aujourd'hui de l'ouvrage que Radlo Pitlick consacre à l'écrivain Jaroslav Hašek.
Rencontre littéraire. «
L'écrivain Jaroslav Hašek, auteur du roman Le brave soldat Schweik, est né en avril 1883. C'est à l'occasion du 130e anniversaire de sa naissance que l'historien de la littérature Ratko Petlik, considéré comme grand connaisseur de l'œuvre de cet auteur, a publié un livre intitulé Jaroslav Hašek, dates, faits et documents. Dans son livre, il répertorie les événements et les sources de documents dont nous disposons sur la vie de l'homme excentrique et inclassable qu'était l'auteur du brave soldat Schweik. Il cherche également à recréer le contexte social et historique ayant permis la création de cette œuvre qui, tout en reflétant son époque, ne cesse de nous étonner par son actualité. Ratko Petlik a déjà écrit toute une série de livres sur Jaroslav Hašek et pourtant il considère sa dernière étude consacrée à cet auteur comme un début.
C'est le début des recherches sérieuses sur Jaroslav Hašek. Il le mérite parce qu'il est, entre autres, une personnalité mondiale. N'oublions pas que Schweik a été traduit dans 158 langues et son nom est donc connu dans le monde entier. Il est compris et interprété de diverses façons, mais nous, les Tchèques, nous devons également nous prononcer à son sujet.
Aujourd'hui, Jaroslav Hašek est probablement l'écrivain de langue tchèque le plus connu dans le monde. Il doit sa notoriété au roman satirique dans lequel il raconte les aventures du soldat Josef Schweik pendant la Première Guerre mondiale. Dans son livre, il enchaîne les situations grotesques, loufoques et ubuesques que son héros affronte avec beaucoup de naïveté et candeur et une bonne humeur qui ne se tarit jamais. Le lecteur de ses aventures s'amuse beaucoup et n'en finit pas de se demander si Josef Schweik est un simple d'esprit ou un mystificateur génial qui réussit avec son sourire ingénu à mettre en évidence la vétusté de la bureaucratie autrichienne, le grotesque de la hiérarchie militaire et l'absurdité de la guerre. Mais l'auteur se garde de donner une réponse claire à cette question. Toujours est-il que Josef Schweik ressemble dans une certaine mesure à son père Jaroslav Hašek. L'historien Ratko Petlik cherche à mettre la gestation de ce personnage dans le contexte de la vie et de l'œuvre de l'auteur.
Je pense que Hašek a eu une enfance normale, mais aussi marquée par les aspects tragiques de la vie de sa famille. Son père était un mathématicien qu'on disait génial. Son frère est également devenu plus tard mathématicien. Hašek était donc le fils d'une famille qui avait la mémoire mathématicienne, et c'était très important aussi pour sa création. Il gardait en mémoire certains détails pendant 20 ans, et cela émergeait tout à coup dans un moment de concentration. Hašek n'était donc pas qu'un bavard planté à la table d'une brasserie, mais il dépassait toujours le niveau moyen. Et même certains intellectuels, comme l'écrivain Jerzy Mahen, l'admiraient et disaient qu'il y avait en lui quelque chose de plus que dans les autres membres de la bohème de Prague.
Ratko Petlik constate aussi que Jaroslav Hašek ne pouvait pas se rassasier de connaître de nouvelles choses. C'est pourquoi, à son avis, le futur auteur du brave soldat Schweik voyageait beaucoup dans sa jeunesse et s'est rendu entre autres en Galicie ou dans les coins perdus de la plaine hongroise, région qui était considérée à l'époque comme marginale. Sa soif de nouvelles sensations et de changements n'a jamais permis à Jaroslav Hašek de s'intégrer dans la société tchèque de son temps et de mener une existence qui pourrait être qualifiée de normal. C'est cela qui lui permettait sans doute de garder une certaine distance et de mieux percevoir les côtés absurdes de la vie. Lorsqu'il arrive à finir ses études et obtient un poste lucratif dans la Banque Slavia, il semble pourtant que l'enfant terrible se soit assagi et ait fait ses adieux à la vie de bohème. Mais ce n'est qu'une apparence. Sous une impulsion soudaine, Hašek abandonne en mai 1903 son poste et part sans laisser d'adresse dans les pays balkaniques pour aider les insurgés macédoniens. Ratko Petlik s'interroge sur la raison de cette nouvelle rupture avec l'existence confortable qui s'ouvrait à ce jeune employé de banque.
Chaque décision et chaque acte de ce genre a beaucoup de causes et de motifs. Je dirais que chez Hašek, c'était son désir de connaissance. Avant, il s'était enfui en Slovaquie. Il était tout à fait subjugué par le tempérament des Slovaques et par les paysages de la Slovaquie. Et puis, il avait aussi un désir de révolution. C'était un anarchiste par conviction et il voulait que quelque chose se passe. Mais l'Autriche-Hongrie était figée dans sa bureaucratie et il ne s'y passait rien. Et quand il se passait quand même quelque chose, ça a été tout de suite étouffé par la police. Hašek n'avait que 13 ans quand il a été arrêté pour la première fois par la police. Figurez-vous donc les sensations de cet homme qui se sentait oppressé par le régime. Sous l'Autriche-Hongrie, Hašek était une espèce de dissident et je m'étonne qu'aucun des dissidents tchèques ne s'en soit encore aperçu.
Toutes les tentatives pour s'intégrer dans la société que Jaroslav Hašek fera plus tard finiront par échouer. Vu par les gens comme il faut, sa vie ne sera qu'un perpétuel échec. Il ne sera pas accepté non plus par la famille de sa femme Jarmila, issue de la bourgeoisie pragoise. Il n'aura jamais un emploi stable et les périodes de travail ne seront que de courts épisodes dans cette existence partagée entre l'alcool et l'écriture, car ce noceur notoire trouvera quand même toujours le temps pour écrire. Son existence, abondamment arrosée par la bière, est cependant interrompue brutalement par la Grande Guerre. Pris dans l'engrenage du cataclysme mondial qui éclate en 1914, il aura la force de survivre à l'enfer du front et puisera de l'inspiration pour les aventures du brave soldat Schweik, son chef-d'œuvre qui verra le jour au début des années 1920. Radko Pitlík voit plusieurs facteurs qui ont contribué à la gestation de cette œuvre.
Ces terribles 5 ou 6 ans de guerre ont été pour Hašek un tournant existentiel à la limite entre la vie et la mort. Il a subi l'expérience horrible de la guerre des tranchées qui ne doit pas être prise à la légère et de la détention dans le camp de Totskoï où plus d'un tiers des 16 000 prisonniers de guerre ont succombé à la fièvre typhoïde. Tout cela a fusionné par la suite dans le personnage de Schweik ainsi qu'avec les événements politiques et historiques d'après-guerre. Hašek, qui avait participé à la fondation des Légion tchécoslovaque, a été accusé après son retour en Tchécoslovaquie de haute trahison et on lui a retiré son titre de légionnaire. Tout cela a donc abouti à la création du personnage très synthétique du soldat Schweik.
Joseph Schweik apparaît dans les contes de Jaroslav Hašek déjà avant la Première Guerre mondiale. Radko Pitlík rappelle que certains traits du soldat Schweik sont perceptibles dans le personnage du voleur Sheiba qui figure dans un récit que Hašek envisageait de publier déjà en 1908. La gestation du personnage du brave soldat était donc beaucoup plus longue que l'écriture du roman. Le personnage de Joseph Schweik, que l'écrivain crée en 1921, est déjà l'aboutissement d'un processus qui finit par la création d'un personnage type. Selon Radko Pitlík, Schweik a offert à Jaroslav Hašek non seulement l'occasion de caricaturer les circonstances historiques dans lesquelles il lui fallait vivre, mais aussi de commenter la société de son temps sous une forme de mystification grotesque. Ce récit satirique a aussi un sens plus profond, un sens philosophique, et sa portée est intemporelle. Radko Pitlík rappelle que Hašek ne dérangeait pas seulement par son œuvre les bien-pensants de son temps. Dans la période du culte de la personnalité sous le communisme, dit-il, Hašek dérangeait parce qu'on le considérait comme trop bohème. Aujourd'hui, on le critique parce qu'il était de conviction anarchiste et collaborait avec les artisans des premières étapes de la révolution russe.
C'était la traditionnelle rubrique littéraire de Václav Richter qui vous proposait un portrait de Jaroslav Hašek par l'historien de la littérature Radko Pitlík. Merci d'avoir suivi ce programme qui vous était présenté par Pierre Ménian. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur le site www.radio.cz/fr. À très bientôt. Ahoy.